Bien, nous ouvrons la parole de Dieu dans l'Apocalypse, chapitre 3. Nous allons lire les versets 14 à 22. Apocalypse 3, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Nous arrivons donc à la septième et dernière lettre, dernier message adressé aux églises, adressé à l'église, aux églises que Jésus connaît, premier mot sur la feuille, des églises, comme nous avons dit, des églises qui sont des églises réelles, mais qui ne sont pas les seules en Asie, mais qui représentent l'église dans sa totalité tout au long de l'histoire, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. L'Église à Laodicée. Tout d'abord, premier point, donc la situation de Laodicée. J'ai finalement réussi à trouver une carte en français. Donc ici, il faut s'imaginer qu'il y a la Grèce avec Athènes qui est à peu près à ce niveau-là. Là, c'est Thessalonique et la Grèce qui vient jusqu'ici. Et là, vous avez Byzance et donc le début de l'actuel Turquie, donc ce qui était autrefois la région de l'Asie, avec Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et vous aviez aussi d'autres églises, il y a l'église de Colosse, qui est juste au sud-est de Laodicée, et une assemblée à Hierapolis, qui est au nord-est de Laodicée. Laodicée, donc, est dans cette vallée, de ce fleuve Lycus, et environ, c'est à peu près 120 km à l'est d'Éphèse. L'église de Laodicée a été fondée une quarantaine d'années auparavant, donc dans les années 50, sous le ministère de, sans doute, d'Épaphras, un collaborateur de l'apôtre Paul, quand Paul était à Éphèse. Et on lit par exemple, quand Paul s'adresse aux Colossiens, chapitre 4, versets 12 et 13, nous lisons ceci, « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. » Et ensuite il dit, « Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, Colossiens, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. » Colossiens 4, versets 12 et 13. La ville de Laodicée donc, est située le long d'une route majeure pour le commerce. Et c'est une raison importante pour laquelle la ville était la plus riche, deuxième mot sur la feuille, la plus riche de toute cette région d'Asie. C'est en quelque sorte la ville des banquiers, la ville des financiers de l'époque. La ville même des millionnaires. Cicéron, par exemple, quand il part pour être gouverneur en Cilicie, donc Cilicie, c'est beaucoup plus vers le sud-est, donc sur la route, il s'arrête à Laodicée et il va déposer ses richesses dans les banques de Laodicée en échange d'un prêt en argent. Tacite, par exemple, va raconter qu'en l'an 60-61, la ville a été détruite par un tremblement de terre. Mais contrairement j'ai un trou, quelle ville était. Une autre ville a été détruite par les tremblements de terre. Philadelphie. Oui, Philadelphie était détruite par les tremblements de terre, puisque c'est Philadelphie qui a accepté, qui a changé le nom pour s'appeler Deuxième Césarée. Et donc, Laodicée, par contre, a été détruite aussi par un tremblement de terre, mais contrairement à Philadelphie, Laodicée va refuser toute aide de la part de l'empereur, parce qu'elle se dit, on a suffisamment de richesses, on peut se débrouiller. De nous, soi-même, on peut s'occuper de soi-même de reconstruire toute la ville. La ville était orgueilleuse à cause de sa richesse et de son succès économique. La ville était riche, la ville aussi était connue pour son école de médecine. Et en particulier, elle était réputée pour ses collyres et pour. Le traitement des yeux. La ville de Laodicée était aussi connue pour la laine, troisième mot sur la feuille, la laine de ses moutons. Une laine qui était très douce, mais une laine aussi qui était très noire. Et à l'époque, les gens, les nobles, ceux qui voulaient montrer qu'ils avaient atteint certains statuts dans la société, ils ne portaient que des vêtements faits de cette laine noire. C'était un luxe. C'était pour montrer qu'ils avaient un certain statut dans la société. La ville était riche, était réputée pour son école de médecine, pour sa laine, mais il y avait un problème majeur dans la ville de Laodicée, c'est que la ville n'avait pas de source d'eau potable suffisante pour ses besoins. Quatrième mot sur la feuille. Elle n'avait pas de source d'eau potable suffisante. Hiérapolis, donc, qui est au nord-est, elle avait une source d'eau chaude, une source d'eau thermale. Et au sud-est, Colosse avait une source d'eau pure, froide. Et Laodicée était entre les deux. Et Laodicée, pour avoir suffisamment d'eau, avait fait construire un aqueduc pour récupérer de l'eau des sources de Hiérapolis, qui étaient des sources d'eau chaude. Mais l'aqueduc et le conduit avaient une bonne dizaine de kilomètres, et le temps que l'eau arrive à Laodicée, l'eau n'était plus chaude, l'eau était tiède. Et quand Jésus va s'adresser à l'église de Laodicée, il va s'appuyer sur ces choses. Et il va dire à cette église, « Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. » Puisses-tu être froid ou bouillant? Et en s'adressant ainsi aux croyants de l'église de Laodicée, ils avaient compris, ils comprenaient ce que Jésus voulait dire. Et voilà donc la situation de l'église de la ville de Laodicée. Deuxième point, le problème de l'église. Et le problème que Jésus souligne dans ce message à l'église de Laodicée, ce n'est pas un problème de persécution comme dans les premières lettres. Ce n'est pas un problème non plus de faux enseignements. Ce n'est pas un problème non plus de péché flagrant. Et quand on regarde la situation, les richesses de cette ville, on pourrait penser que sur le plan des circonstances, l'Église était bénie. Beaucoup de personnes pensent en ce sens-là. L'Église a des richesses et elle est bénie. Mais le Seigneur souligne que justement, c'est justement là le problème. C'est justement à cause de leur richesse, cinquième mot sur la feuille, que les croyants de Laodicée étaient devenus spirituellement apathiques. Ils avaient perdu leur zèle pour le Seigneur et pour son évangile. On peut très bien imaginer les membres de cette église de Laodicée venir aux rencontres, venir au culte par exemple. Et au lieu d'être à l'écoute de la parole, ils sont là plutôt à regarder leur montre en disant bon, quand est-ce que ça va se terminer parce que j'ai autre chose à faire. On peut les imaginer professant croire dans la vérité, mais le problème c'est que cette vérité ne touchait pas leur cœur. Ils professaient être des croyants, mais seule une minorité l'était réellement. L'Église était devenue tiède. Il n'y avait plus de ferveur, il n'y avait pas d'heure. Jésus leur dit « Je connais tes heures », mais il n'en mentionne aucune. Le témoignage de cette Église était un témoignage qui était devenu faible. La raison est parce que le monde, sixième mot sur la feuille, était entré dans l'Église. Le monde était venu influencer l'Église. Il influençait tellement que le monde est venu dominer la vie de l'Église. On a du mal à imaginer l'Église de Laodicée où tous les membres étaient présents en milieu de semaine à la réunion de prière. Les membres étaient sans doute indifférents à la condition de ceux qui les entouraient. Ils étaient sans doute indifférents aux pauvres. Ils étaient centrés sur eux-mêmes, focalisés sur leurs finances, sur leurs affaires, focalisés sur leur apparence, apparaître, être au même niveau que les gens du monde, et surtout pas être différents d'eux, surtout pas être zélés pour l'Évangile. Ils n'avaient plus cette dévotion pour le Seigneur Jésus-Christ. Le problème de l'Église de Laodicée. Troisièmement, la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Et il répond au verset 16 avec dégoût. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Beaucoup de personnes, beaucoup de commentateurs sont perplexes en lisant ces paroles du Seigneur et se demandent, mais pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus préfère le froid à une foi tiède? Ils disent, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Pourquoi est-ce qu'il préfère le froid à une foi tiède? On penserait qu'une foi tiède vaut mieux qu'une foi que rien du tout. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi le Seigneur Jésus a horreur du tiède. C'est une telle offense si extérieurement on déclare connaître les gloires du Seigneur Jésus, de son évangile, et que d'intérieurement on vit comme si ces vérités ne signifiaient rien pour nous. D'avoir une apparence, mais finalement de ne pas être touché par ces vérités. C'est une offense pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais comment est-ce que cela est arrivé? J'ai dit tout à l'heure que cette église a sans doute été plantée par, sous le ministère d'Épaphras et indirectement de l'apôtre Paul. Paul lui-même, dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 4 et un peu plus loin, en verset 16, fait allusion à une lettre qui est adressée à Laodicée et que les Colossiens devaient lire aussi, une lettre qui n'a pas été retenue dans le canon de l'Écriture. Mais c'est une église que l'apôtre Paul connaissait. Comment est-ce qu'une telle église peut devenir tiède? Cela vient d'une mauvaise opinion de nous-mêmes, 8e mot sur la feuille. Une mauvaise opinion de soi-même. Et cela est aussi le fruit de la richesse matérielle. Ces croyants regardaient leurs circonstances favorables. Et c'est souvent le cas avec quand on a des richesses, quand on a des possessions. Et ils pensaient que voilà, c'est le signe de la bénédiction de Dieu, ce qui est souvent le cas. Mais ils regardaient, ils mettaient leur gloire dans ces choses. Ils avaient peut-être même un beau bâtiment. Mais il n'y a rien de mauvais à avoir un beau bâtiment. Mais ils mettaient leur gloire dans la beauté de ce bâtiment. Ils avaient des choses impressionnantes pour qu'ils prouvaient qu'ils étaient riches, qu'ils avaient les moyens financiers. Mais Jésus est en train de leur dire, mais ne savez-vous pas que sans moi, tout cela n'est rien? Jésus leur dit, vous êtes pauvres, vous êtes malheureux, vous êtes misérables, vous êtes aveugles et nus. Pourtant, vous vous dites, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais en réalité, ils sont pauvres, ils sont aveugles, ils sont nus. Ils mettaient leur confiance dans les richesses matérielles et vivaient pour les choses de ce monde qui passent. Et Jésus va les reprendre. Jésus et la parole de Dieu ne dit pas que les richesses sont le problème. Mais c'est l'amour de l'argent, l'amour des richesses qui est le problème. On a tout au long de l'histoire des croyants qui sont extrêmement riches. On peut penser à Abraham, par exemple. On peut penser à même Joseph, lorsqu'il a été nommé à côté de Pharaon, le second sur le trône, possédant d'innombrables richesses. Tout au long de l'histoire de l'Église, on voit des personnes qui ont des richesses, mais qui ont su les gérer pour la proclamation de l'Évangile, pour faire connaître et faire avancer le message de l'Évangile. Leur passion, ce n'était pas les richesses, leur passion, c'était Christ, leur passion, c'était l'Évangile, c'était de le faire connaître. Et ils avaient l'argent et les richesses pour l'utiliser dans ce sens, c'était des moyens. Mais le problème, trop souvent, et encore aujourd'hui, c'est que c'est l'inverse. C'est que les richesses deviennent le but et non plus un moyen. Un moyen pour honorer Christ, pour faire connaître l'Évangile. Pour penser à tellement de personnes qui sont tombées dans ce piège. Des personnes qui oublient tout et pensent simplement à tout ce qu'ils peuvent faire avec leur richesse. Au lieu de se dire, voilà, maintenant j'ai l'occasion de l'investir dans le royaume et de faire connaître le message du Seigneur Jésus-Christ. Ces croyants vivaient pour les richesses matérielles et non plus pour le Seigneur Jésus. Ils s'enorgueillissaient, ils oubliaient Dieu et ont oublié le Seigneur Jésus-Christ. On peut apprendre plusieurs choses de ces Laodicéens, de ces croyants. On peut tomber très facilement tomber dans ce piège d'avoir une mauvaise opinion de soi-même, une vue de soi-même qui est fausse. Aujourd'hui, dans la société, beaucoup de personnes ont une vue négative d'eux-mêmes. Et ça, c'est à cause de l'enseignement sur l'évolution et tout ça. Et nous sommes obligés de leur rappeler que l'être humain a été créé à l'image de Dieu, qu'il y a une dignité à la vie humaine et qu'on ne doit pas se mépriser, mais qu'au contraire, on a été créé à l'image de Dieu et que nous sommes appelés à lever les yeux vers le Créateur pour vivre avec lui. Mais très souvent dans le monde chrétien et le monde évangélique, c'est le contraire. Nous avons une vision trop haute de nous-mêmes parce que nous ne voyons pas notre péché, parce que nous ne voyons pas les compromis que nous faisons, parce que nous ne voyons pas le manque de zèle, parce que nous ne voyons pas que nous sommes infiltrés par la culture de notre jour qui vient infiltrer notre vie et nous avons une vision trop haute de nous-mêmes. Que nous dit la parole de Dieu? Jacques 4, verset 10 nous dit « Humiliez-vous devant le Seigneur. Humiliez-vous, 9e mot sur la feuille. Humiliez-vous devant le Seigneur. C'est lui qui vous élèvera. » Et c'est pour ça que nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous venons sans arrêt, quotidiennement, et nous voulons nous nourrir de cette parole de Dieu. De cette parole de Dieu, surtout si nous avons des possessions matérielles, parce que le monde va dire « Oui, tu es quelqu'un, tu es en train de faire ta place dans la société, tu deviens quelqu'un d'important. » La Bible nous rappelle qu'en réalité, nous sommes petits et nous avons besoin de Christ. Nous avons besoin de nous humilier devant lui. La parole de Dieu nous rappelle que ce n'est pas par l'argent, par l'or que nous sommes sauvés. Ce n'est pas les richesses de ce monde qui peuvent nous sauver. Que la vie, ce n'est pas le manger ni le boire, comme le verset que nous avons entendu tout à l'heure. Mais c'est la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Seul le Seigneur Jésus-Christ sauve. Seule la vie, Seul le Seigneur Jésus-Christ donne la vie et la vie éternelle. C'est à lui qu'il faut aller, et en renonçant à tout ce que le monde prétend nous offrir. Et nous-mêmes, en tant que croyants, nous pouvons gaspiller notre temps, le peu de temps que nous avons, parce que nous avons une fausse vision de nous-mêmes, une fausse opinion de nous-mêmes. Et seule la parole de Dieu nous rappelle qui nous sommes. Nous avons besoin d'être convaincus, persuadés par cette parole, que nous sommes appelés à vivre dans une vie de repentance, constamment, une vie au pied de la croix, jour après jour, que nous sommes loin d'être arrivés, que nous sommes encore de ce côté-ci de la résurrection finale. Et donc, nous ne sommes pas encore arrivés au but, même si nous sommes à Christ, même si nous lui appartenons, même si nous avons cette position devant Dieu qui est parfaite et qui ne changera jamais, personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Nous sommes loin d'avoir atteint le but. Nous courons vers le but. Nous sommes encore loin de l'avoir atteint. Nous sommes encore pauvres par rapport à ce que nous serons dans la gloire. Il y a encore beaucoup de choses pour nous. Même si je connais la Bible parfaitement, même si je peux réciter tous les versets, même si je maîtrise la parole de Dieu, nous devons reconnaître avec l'apôtre Paul que je vois d'une manière imparfaite. Que je vois encore d'une manière imparfaite. Nous ne pouvons pas nous enorgueillir devant Dieu. Nous ne pouvons pas. Nous devons rester humbles. Mais si nous adoptons cette vision trop haute de nous-mêmes, c'est parce que nous nous laissons influencer par la culture dans laquelle nous vivons. Et c'est facile de voir. Quand on va dans une ville, par exemple, qui est bourgeoise, on va voir des personnes qui vont adopter une attitude de supériorité, d'élitisme. Ben, ils sont un peu spéciaux. Quand on voit dans une ville plutôt qui est patriote, on va être animé par le désir de défendre la nation. Et l'Église qui est dans cette ville-là, par exemple, va être plus concernée par un royaume terrestre, par des réalités terrestres. Dans une ville de plaisir, la ville, les habitants de la ville vont chercher les plaisirs et l'Église va être tentée de rechercher les plaisirs avant tout. Ici, à Laodicée, les croyants étaient infectés par cette attitude d'arrogance des Laodicéens à cause de leur richesse, à cause de leur capacité de se débrouiller tout seul. Ils n'avaient pas besoin d'aide de l'extérieur et l'Église est tombée dans le même piège. Ils sont devenus spirituellement pauvres, aveugles. Ils ont abandonné leur témoignage. Et Jésus dit que si l'Église ne se repent pas, elle court le danger d'être vomie de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus parle de vomir, on peut penser à cette parabole des talents que le Seigneur a raconté de ce serviteur inutile qui n'a rien fait parce qu'il ne connaissait pas le maître en réalité. Et Jésus dit en Matthieu 25, verset 30, il dit à son sujet, « Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Il est donc essentiel d'avoir une bonne opinion de nous, comme la parole nous le dit, et non pas comme le monde veut nous le faire croire. C'est ce que la parole dit de nous, le dixième mot sur la feuille. C'est comme la parole nous décrit. C'est pour ça qu'il est nécessaire de revenir à la parole et de nous laisser enseigner et instruire par elle. C'est pour ça que nous l'ouvrons et que nous la méditons jour après jour. Cette partie de ce passage est sans doute l'un des plus durs dans toute la parole de Dieu. Et pourtant, nous amène au quatrième point, qui est surprenant. C'est de voir la tendresse et l'amour du Seigneur Jésus pour cette Église. Il le dit au verset 19. « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Quand Dieu montre nos faiblesses, quand il montre les faiblesses à cette Église, les problèmes de cette Église, quand il montre nos compromis, ce n'est pas pour détruire. C'est pour reprendre. Jésus aime son Église, même l'Église de Laodicée, qui est pourtant écœurante comme l'eau de son aqueduc. Mais le seul espoir est en Christ. Et notre seul espoir est en Christ. Il n'est pas en nous-mêmes. On peut se sentir mal à l'aise, on peut penser que on a tout fait de travers dans notre vie chrétienne. Mais Jésus rappelle que si nous sommes à lui, il nous aime. Et il corrige, il châtie ceux qu'il aime. Le Seigneur Jésus-Christ est le remède pour cette Église. Et il rappelle à cette Église qu'elle ne doit pas chercher la réponse à ses besoins spirituels auprès du monde, dans la ville de Laodicée, mais qu'elle doit les chercher vers le Seigneur Jésus lui-même. Le 11e mot sur la feuille, il dit au verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi. » Et en venant à Christ, ces membres de l'Église de Laodicée découvriraient que le Seigneur gère une économie qui est différente de celle du monde. Le Seigneur ne veut pas dire que ces bénédictions de salut sont à vendre et qu'on peut les acheter avec de l'argent, avec de l'or, mais que nous pouvons nous venir à lui et dans ses propres termes pour prendre ce qu'il nous donne gratuitement, ce qui est là et qui sauve et qui nous sauve. Il enrichit notre pauvreté, il habille notre nudité, il peut donner des yeux pour voir. C'est cette même économie de marché que nous avons lue tout à l'heure en Ésaïe 55. Venez, vous qui avez soif, sans argent, achetez sans argent, sans or. Mais venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Voilà l'économie de marché du Seigneur Jésus-Christ. C'est de venir à lui tel que nous sommes, avec nos besoins. Et de venir prendre ce qu'il nous donne, ce qu'il offre dans le Seigneur Jésus-Christ. Acheter auprès du Seigneur Jésus-Christ, c'est en réalité dépendre entièrement de lui, en toute chose. C'est venir les mains vides et chercher les bénédictions qu'il nous accorde par la grâce seule, par la foi, en sa parole. Jésus les invite, les croyants de l'Église, les membres de l'Église de Laodicée, à acheter de l'or éprouvé par le feu, verset 18. Ici, il parle des véritables richesses, les vraies richesses du salut, les vraies richesses aussi d'une vie spirituelle. Jésus a raconté cette parabole du riche insensé qui possédait beaucoup de biens et qui pensait qu'il était en sécurité parce qu'il gardait ses biens. Mais Jésus rappelle que cet homme, il l'appelle insensé, parce qu'il dit que le soir même, il allait mourir et rendre des comptes à Dieu. Aucun moyen de ce monde, aucune richesse de ce monde ne peut nous assurer l'éternité avec Dieu. Luc 12, verset 21, Jésus dit ceci, Jésus appelle insensé celui qui amasse les trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et Jésus dit à cette église, mais venez à moi et soyez riches. Venez à moi et soyez riches pour Dieu. Achetez de moi de l'or éprouvé par le feu. Il parle non seulement du pardon des péchés, non seulement de la justification par la foi, mais il parle aussi de cette vie nouvelle, de ce caractère spirituel. Il parle de l'or éprouvé par le feu. Il parle d'un caractère qui est rendu plus fort par les circonstances, une foi plus grande qui est rendue plus grande par les épreuves, par les tribulations. Mais voilà les vraies richesses. Et venez à moi pour avoir ces richesses. L'homme charnel, lui, va chercher le contentement en voulant avoir ce qu'il ne possède pas. Il dit, j'ai besoin de ceci, je ne l'ai pas encore, mais si seulement j'avais cela, alors je pourrais être satisfait, alors je pourrais être heureux, alors je pourrais être content. L'homme spirituel, lui, cherche le contentement en ayant de moins en moins besoin des choses qu'il possède déjà, parce qu'il trouve son contentement en Christ et en lui seul. Christ est tout, 12e mot sur la feuille. Christ est tout. Les richesses de justice, de joie, de paix dans l'Esprit Saint se trouvent dans la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà les richesses, dit le Seigneur Jésus-Christ. Venez acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Toi qui te dis riche, en fait, tu es pauvre. Et tu as besoin de venir à moi. Il les exhorte ensuite à acheter de lui des vêtements blancs pour se vêtir, pour couvrir la honte de leur nudité. Toujours au verset 18. Et tout au long de ce livre de l'Apocalypse, on va voir des vêtements blancs. Il y a des nuances. Mais il y a toujours l'élément central de la justice du Seigneur Jésus-Christ qui est imputée par la foi sur la vie du croyant. Mais il y a aussi l'idée d'une vie qui découle de cette justice, d'une vie qui s'approche de plus en plus de ce qu'elle doit être, une vie toujours plus sainte. J'ai dit, voilà les richesses. Pas besoin d'avoir honte de ce que vous êtes. Je vous donne la justice, je vous donne la sainteté de vie, je vous donne le zèle pour l'Évangile. La plus grande honte dans le monde ancien était celle d'être mise à nu. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a été. Le Seigneur Jésus-Christ l'a été pour nous. Il n'a pas seulement porté notre culpabilité, mais il a aussi porté notre honte. Et le plus grand honneur dans le monde ancien était d'être revêtu d'habits magnifiques, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a été, et comme le Seigneur Jésus-Christ l'est, et nous l'avons vu dans le premier chapitre d'Apocalypse. Et les pans de sa robe remplissaient. Et Jésus dit, voilà, j'ai ces habits pour vous. Il nous lave par son sang, il nous justifie par sa justice, mais il nous fera grandir en sainteté de vie, une vie qui reflète toujours plus sa gloire. Voilà des merveilleuses richesses qu'il nous donne, mais que lui seul nous donne. Venez à moi, achetez de moi ces choses-là. Mais parlant d'habits, il y a aussi sans doute quelque chose d'autre qui se passe dans les propos du Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, la ville de Laodicée était connue pour sa laine qui était luxueuse, qui était très fine, mais qui aussi était d'un noir très profond. Et les riches de Laodicée ne s'habillaient que de ces vêtements-là, de ces vêtements fabriqués de cette laine noire, ne s'habillait jamais en blanc. Et pour montrer sa richesse aux yeux du monde, pour être reconnu par le monde, il fallait s'habiller en vêtements de laine noire. Et Jésus dit à cette église, c'est pas la même chose pour vous. Il n'en est pas ainsi pour vous. Si vous voulez être habillé, vous allez devoir venir à un autre couturier. Vous ne pouvez pas être chrétien et vous mélanger, essayer de passer de manière discrète au milieu du monde, comme vous l'avez fait jusque maintenant. Non, vous devez avoir une contre-culture, une culture où l'Évangile est exposé, où la vraie sainteté est vécue. Vous ne pouvez pas simplement vous fondre dans le monde, non, mais ressortir comme le blanc ressort du noir. 12e, 13e mot sur la feuille. Avoir ce témoignage pour l'Évangile. J'ai des vêtements, mais pas des vêtements noirs, des vêtements blancs pour vous. Des vêtements blancs dans une société qui ne vivait, où beaucoup ne s'habillaient qu'en noir. Moi, j'ai des vêtements blancs pour vous, afin que vous ayez du zèle pour l'Évangile. Laodicée, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, était connue pour ses collyres, pour le soin des yeux. Jésus dit à cette église, mais vous êtes aveugle. C'est à moi que vous devez venir. Ce n'est pas au monde. C'est à moi. C'est moi qui vous ouvre. C'est moi qui vous ouvre les yeux. C'est moi qui vous donne un collier pour oindre les yeux afin que tu vois. C'est le cri du psalmiste, psaume 119, verset 18. Ouvrez mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Christ donne la capacité de nous voir comme nous-mêmes nous sommes réellement. Mais il nous donne aussi la capacité de voir son évangile et de comprendre. Jésus donne ces choses gratuitement. Venez à moi, achetez de moi, comme l'a dit Isaïe, sans argent. Mais venez à moi et je vous les donne. Ce qui nous amène au cinquième point, l'appel du Seigneur Jésus-Christ, verset 19. Et donc du zèle et repens-toi. Il demande à son Église un zèle pour l'Évangile, 14e mot sur la feuille. Et le terme de zèle dans le grec a cette idée, traduit l'idée d'eau bouillante. Encore une fois, ça va très bien pour la situation à Laodicée. Et on voit le message. Jésus appelle cette Église à être bouillant, chaud bouillant pour lui, comme un récipient rempli d'eau bouillante, de grâce. De zèle pour Christ et pour son royaume. C'est ce que Paul, par exemple, va dire en Romains chapitre 12, après avoir passé 11 chapitres à exposer l'Évangile et la gloire de l'Évangile. Il commence au chapitre 12, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors qu'est-ce que ça veut dire, avoir plus de zèle pour Dieu? Ça veut dire beaucoup de choses, chacun à son niveau. Ça veut peut-être dire être appelé à une vie de prière plus intense. L'église de Laodicée ne donnait sans doute pas une grande place à la prière. Et l'Église au sens large, aujourd'hui, ne prie pas. Mais il nous faut nous approcher du trône de la grâce. Cela peut-être veut dire, et chacun voit cela pour lui dans sa vie personnelle, peut-être gérer son temps d'une autre manière, pouvoir se discipliner pour mettre du temps pour la prière, peut-être se lever plus tôt, ou peut-être prendre du temps après le repas. Paul nous dit en 1 Thessaloniciens 5, 17, de prier sans cesse. Et c'est ce qui devrait nous caractériser. Prier comme nous avons vu dans ces lettres, pour une lettre ou pour une porte ouverte pour le témoignage. Prier pour être plus zélé pour l'Évangile et pour être des témoins, une lumière dans ce monde de ténèbres. Ça peut être être animé d'un plus grand enthousiasme pour le service dans l'Église. Peut-être même que certains verront un appel pour un rôle dans un champ missionnaire ou dans une autre responsabilité. Les appels, les dons sont différents. Mais Jésus nous appelle chacun à être rempli de zèle pour son œuvre. Et donc du zèle et repens-toi. Et puis le Seigneur ajoute cet appel au verset 20, qui est un appel des plus tendres. Un verset, comme nous avons dit tout à l'heure, un verset très connu, mais beaucoup de personnes oublient que ce verset est adressé à l'Église. Et plus particulièrement à l'Église de Laodicée, une Église qui rend le Seigneur Jésus-Christ malade. Il dit « Je suis sur le point de te vomir ». Et pourtant, on voit la tendresse du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Seigneur pour son Église. Ce verset est souvent mal compris. Ce verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Trop souvent, on pense que ce verset, on utilise dans le monde évangélique ce verset à la fin d'une réunion d'évangélisation. Mais le contexte, comme j'ai dit, montre que ça ne peut pas être le cas. Ce texte ne s'adresse pas à des incroyants. Il n'exhorte pas des incroyants à demander au Seigneur Jésus d'entrer dans leur cœur. Parce que de toute façon, c'est impossible. Un incroyant ne peut pas demander au Seigneur Jésus-Christ d'entrer dans son cœur puisqu'il est spirituellement mort. Spirituellement incapable de faire quoi que ce soit. Non, nous annonçons l'Évangile. Le Seigneur Jésus-Christ donne un cœur nouveau. Par exemple, Ézéchiel 36. Et par l'Esprit, par l'œuvre de l'Esprit, il ouvre ce cœur, comme à Lydie, par exemple, en Actes chapitre 16. Nous proclamons l'Évangile par la grâce de Dieu. Et Dieu, lui, par sa grâce et par l'œuvre de l'Esprit, ouvre les cœurs. Mais ici, Jésus s'adresse à son Église. À son Église qui lui a fermé ses portes. Il s'adresse à ses enfants qui lui ont fermé leur cœur, qui se sont détournés de lui, qui ne sont plus intéressés par lui. Ils sont rejetés, ou du moins ils se sont laissés influencer par le monde, et ils vivent une vie mondaine. Et le Seigneur Jésus-Christ montre ici son désir d'avoir une relation, 15e mot sur la feuille, une relation avec ses enfants, avec son peuple. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et ce langage, on le retrouve par exemple dans le livre des Cantiques, au chapitre 5 et au verset 2. Merveilleuse image dans tout ce livre entre le bien-aimé et la bien-aimée, une image de Christ et de son Église. Et au verset 2, on lit ceci, « La bien-aimée dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. » Et puis elle réalise, elle dit, mais c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Et que fait la bien-aimée? Elle tarde. Elle tarde, et quand elle ouvre la porte, le bien-aimé est parti. Et elle part à sa recherche. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre les paroles du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, il frappe à la porte de son Église, de son Église qui lui a fermé sa porte. Elle dit, mais voilà, je suis là, je veux cette communion, je veux cette relation, ouvre cette porte. Est-ce que nous entendons la voix du Seigneur Jésus-Christ qui frappe à la porte? Est-ce que comment est-ce que nous entendons cette parole? Nous l'entendons par, comment est-ce que nous entendons la voix du Seigneur Jésus-Christ? Nous l'entendons par la parole. C'est pour ça, comme j'ai dit tout à l'heure, que nous avons besoin, encore une fois, de venir sans arrêt à cette parole, que c'est par elle que le Seigneur parle à son peuple, qu'il nous parle. Et on voit aujourd'hui, par exemple, que la génération n'est pas du tout intéressée par la parole de Dieu. Et ça se voit dans l'architecture des bâtiments. Ça s'est vu, par exemple, au temps de la Réforme. La Réforme, on a mis la chair au centre. Pourquoi? Parce que c'était la parole, et par la parole, la proclamation du message du Seigneur Jésus-Christ. C'était la voix du Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse à son Église. On a mis de côté l'autel de l'Église romaine pour mettre la chair au centre, parce que c'était la parole de Dieu, la parole du Seigneur Jésus-Christ qui était importante. Aujourd'hui, le monde évangélique, dans sa majorité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore remis, lui, par contre, mis la chair de côté pour mettre une scène, pour remplacer la parole de Christ par un divertissement mondain. Un commentateur dit ceci, « L'appel du Seigneur Jésus-Christ à cette église de Laodicée est un appel à revenir à la parole de Dieu. » 16e mot sur la feuille. La pauvreté de l'église vient en grande partie du fait que la parole de Dieu n'occupe pas la place qu'elle devrait occuper. C'est la parole qui apporte la voix du Seigneur Jésus-Christ. Un autre commentateur dit, nous sommes appelés à nous soumettre à la parole, à chercher Christ dans la parole, mais aussi à obéir à la parole. Il ne s'agit pas seulement d'être présent au culte, mais de mettre Christ à la première place dans notre vie privée et notre vie publique. Et notez aussi la promesse que Jésus fait quand il lance cet appel. Il va avoir une communion, 17e mot sur la feuille, avec nous. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le monde pense que on gaspille notre temps, que l'on gaspille notre vie en lisant la parole de Dieu. Mais Jésus dit non, au contraire, c'est avoir une communion avec lui. C'est vivre dans une intimité avec lui. Et quand il parle de souper, c'est le dernier repas. C'est le repas du soir, c'est un repas qui est long. On enlève les chaussures, on se met à table, on prend le temps. On prend le temps de parler, de manger, de prier, de partager les événements de la journée. Et le Seigneur Jésus nous invite à cette communion avec lui. Est-ce que nous entendons le Seigneur Jésus frapper à notre porte? Est-ce que nous avons cette communion avec lui? Ça rejoint le passage de Jean 14 que nous avons lu tout à l'heure. Hein, le Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Et nous terminons par le sixième point, qui est l'autorité de celui qui parle. Jésus reprend cette église, il donne des raisons pour les inciter à la repentance. Nous en avons lu quelques-unes ce matin. Mais la première raison, c'est sa propre autorité. C'est le Seigneur, 18e mot sur la feuille, le Seigneur Jésus qui parle à son Église. Il dit au verset 14, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. » Voici ce que dit l'Amen, ce qu'il dit est établi. Paul dira en 2 Corinthiens 1, verset 20, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Christ, qu'est le oui. » C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Tout est établi, tout est vrai en Christ. Il est le témoin fidèle et véritable, nous dit le Seigneur ici, il se présente ainsi. Quand il parle, nous sommes appelés à l'écouter parce qu'il est le seul, le vrai témoin. Pourquoi passer du temps à me lire, à méditer la parole? Pourquoi se retrouver le dimanche matin pour ouvrir la parole? Parce que c'est là que nous entendons la voix du Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que nous sommes là que nous entendons la vérité, que nous entendons la voix de la vie. Il est le principe, le commencement, non seulement de la création, et là on pense au début de l'évangile de Jean, qu'au début, toute chose, la parole était avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, pour elle, mais qu'il est aussi, comme le dit le premier chapitre de l'Apocalypse, le premier-né d'entre les morts, de la nouvelle création. Il est le premier-né entre toutes choses. Si nous avons besoin de la vie, c'est lui qui peut la donner. Nous avons besoin d'être régénérés, c'est lui qui peut le faire. Et lui seul. Et le Seigneur va conclure cette lettre et ce message par cette promesse, cette promesse, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Il va nous élever à une position glorieuse. Le Seigneur Jésus-Christ a conquis, 19e mot sur la feuille, il s'est assis à la droite du Père. Comment est-ce qu'il a conquis? Il a conquis par la croix. Et c'est un exemple pour nous. Nous allons aussi conquérir par la croix. Par la croix de Christ, mais aussi en prenant notre croix quotidiennement. Ces églises, nous avons déjà vu, faisaient face à des jours difficiles, mais elles ne devaient jamais oublier que ce qui ressemblait à la défaite pour le Seigneur Jésus-Christ a été en fait sa victoire sur le monde et le péché. Et ces églises ne devaient pas avoir peur, ne devaient pas avoir crainte, même si elles allaient devoir souffrir, parce qu'avec Christ, elles sont plus que vainqueurs. Et nous aussi. Nous aussi, nous sommes plus que vainqueurs par sa puissance. Nous persévérons dans la foi avec cette récompense devant nous, non seulement que nous allons entrer dans le ciel, mais que nous allons être avec le Seigneur Jésus-Christ dans son ciel, sur son trône avec lui. C'est une destinée glorieuse, une destinée merveilleuse à laquelle le Seigneur Jésus-Christ nous appelle et qu'il nous met devant nous. Et Jean va résumer cela dans sa première lettre au chapitre 5 et au verset 4. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 20e mot sur la feuille. Cette foi que Dieu nous donne en lui, en Christ. Cette foi qui nous accroche dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui et en lui seul que nous sommes plus que vainqueurs. Voilà la fin de cette première partie, de ce premier tableau. Ces sept lettres donc, qui s'adressent aux sept églises, mais qui s'adressent à toute l'église dans son ensemble. Comme il le dit au verset 22, et c'était la conclusion de toutes les lettres, tous les messages aux sept églises, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que nous soyons de ceux qui entendent ce que l'Esprit dit aux églises, et que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et à nous remettre en question, mais aussi à prendre courage, parce que même si nous tombons bas, même si nous sommes dans la situation de Laodicée, ce qui peut arriver, rappelons-nous que même là, le Seigneur aime et reprend. Il châtie et il reprend ceux qu'il aime. Il est là et il n'abandonne jamais les siens. Même ceux qui se sont éloignés de lui, il les reprend. Et il va continuer son œuvre, comme l'apôtre Paul nous le rappelle en Philippiens 1, qui est persuadé que celui qui a commencé en nous son œuvre, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, pour ce jour où il viendra chercher son épouse et l'emmener dans la gloire. Que Dieu nous aide à comprendre, à méditer sur ces réalités et à vivre en attendant ce jour glorieux de son retour. Amen.